Vous êtes édité aux éditions Yves Michel, qui est un éditeur engagé dans le changement de paradigme et de civilisation. Mm-hmm. Et en fait, moi, à vous écouter, j'éprouve un malaise, parce que d'une certaine manière, dans ces collections, dans tout ce qui est écrit, etc., ça va dans le sens d'un changement de paradigme, parce que c'est une crise de civilisation, une crise de sens, une crise financière, une crise écologique, c'est une crise globale, spirituelle, etc. Donc c'est vraiment la place de notre humanité sur cette planète qui se joue en ce moment. Donc la partie financière, elle est incluse dedans. Et ce qui me gêne, c'est que j'éprouve le sentiment, en vous écoutant, qu'on n'a pas de rôle à jouer, nous, en tant qu'acteurs de la société civile. Et j'aimerais bien que vous me... Parce que dans cette collection, justement, il y a des propositions qui ne sont pas les vôtres. Je n'ai pas encore lu votre bouquin, mais Yves m'a dit qu'il était... Non, il m'a dit que c'était vachement intéressant. Donc...
Il y a 60 mesures à la fin, quand même. Hein.
D'accord, mais c'est celle-là que j'aimerais bien entendre. Non, j'aimerais bien entendre un peu, justement, l'aspect comment nous, en tant qu'individus, on peut agir, puisqu'on peut agir sur notre environnement, sur l'écologie, sur des actes citoyens. Et aujourd'hui, je pense que la société civile, elle a un vrai rôle à jouer pour contrebalancer et les politiques et les financiers. Et quelles sont donc, selon vous, les stratégies que chacun pourrait, ou les propositions que vous pourriez nous proposer ?
Vaste débat. Alors déjà, un grand merci à Yves Michel, qui est à cette petite maison d'édition engagée, qui m'a permis d'éditer ce livre. Un grand merci aussi, j'en profite, à André-Jacques Houellebecq, qui m'a un peu pistonné auprès d'Yves pour justement être publié. C'est pas facile de sortir ce genre de livre, faut vraiment pas croire. Original sur la forme, sur le fond. Parce que justement, j'ai pas voulu faire non plus un livre trop apocalyptique ou trop, évidemment, sans arrêt, on me dit d'être pessimiste. Je suis pas pessimiste sur le Brésil ou la Chine, je suis pas pessimiste sur nous dans 5 ans. Mais il arrive qu'en effet, que dans la vie, faut sortir du paradigme aussi, un peu de bisounours, du genre tout va très bien, il n'y a jamais de problème, tout le monde il est gentil, tout le monde il nous veut du bien. C'est là aussi, plusieurs siècles d'histoire montrent que c'est pas toujours le cas. Pour le moment, dans cette partie-là, je vais tout vous dire. Dans la première version, le premier manuscrit s'appelait Les Crises. Ce n'était pas un titre forcément définitif, je l'avais appelé Les Crises. Et il y avait la moitié, il faisait 600 pages à l'époque, il y avait la moitié, 300, sur la crise économique, et il y avait 300 sur la crise écologique, environnementale, une grosse partie sur la crise pétrolière, une grosse partie sur la crise climatique, une grosse partie sur la crise démographique. voilà, donc c'était dense, dirons-nous. Vous envoyez d'ailleurs une partie, la partie climatique, actuellement sur vos écrans tous les week-ends. Parce que c'est un enjeu majeur pour l'humanité, bien sûr. Yves m'a dit, c'est un peu long ton machin, là, je peux pas le sortir. Si c'est 600 pages, faut pas rêver, quoi. Donc tu coupes ça. Alors j'ai coupé. Ça fera peut-être un prochain livre, sans doute même. J'ai dit, bon, on va faire l'économique d'abord. De toute façon, en plus, il se trouve que, quand même, malgré tout, c'est le problème des 2 ans qui viennent. Donc les faits, et puis manque de bol, en retravaillant le truc, il a malgré tout remonté à 600 pages. Voilà. Il y avait malheureusement une malédiction, je pense, et j'ai pas pu faire beaucoup plus court. Mais j'ai surtout voulu, en effet, essayer de faire pas mal de propositions après, parce que bien sûr que c'est une crise aussi, un peu de civilisation. On paye... Bien sûr, du productivisme, d'une... Alors moi j'ai appelé ça financiarisme, déjà pour pas rentrer dans les débats sur capitalisme ou pas, qui est déjà le bon moyen d'aller vous... détruire un débat, puisque vous avez déjà commencé à parler une demi-heure sur qu'est-ce que le capitalisme avec des gens où des gens n'est même pas d'accord sur la définition. J'ai préféré appeler ce qu'on vit, ce système de capitalisme financier, enfin, qui à mon sens n'est plus vraiment capitaliste non plus, hein. À part certains points, il est très communiste, hein, d'ailleurs, pour les plus riches, hein. Cette phrase, le communisme pour les riches, le libéralisme pour les pauvres, il est vrai, hein. Enfin, en ce moment, il y a quand même un assistanat des riches qui est très étonnant, si vous regardez. Je caricature toujours un peu sur les riches, les pauvres, excusez-moi, mais oui, mais c'est, je l'ai déjà sorti, je l'ai remettrai. Tu peux le placer demain, je le placerai demain. Mais oui, l'assistanat des riches en ce moment, purée, c'est vas-y, 30 milliards sur Dexia, c'est vas-y, la Grèce, il n'y a pas de souci, on va y mettre. On est même à 1000 milliards quand même, 1000 milliards d'euros, on essaie de nous promettre. C'est n'importe quoi, ça n'existera même pas, mais Mais enfin, c'est des sommes dont on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. Je veux dire, déjà, 1 million d'euros, on voit ce que c'est. Enfin, 1 milliard, c'est 1 000 millions, déjà, ça en fait. Alors, 1 000 milliards, 1 million de millions. Ah, on est sur quelque chose de complètement fou, en effet, qui ramène à une crise de civilisation. Je vais publier, je ne l'ai pas écrit encore, parce que c'est normal. Aujourd'hui, j'ai eu ma première mauvaise critique du livre. Donc, je vais la mettre sur le blog, je vais y répondre. L'alternative économique. C'est amusant, en plus, sur les axes de la critique, il y a quelques phrases. De toute façon, ça a l'air d'être un... Je ne sais plus d'ailleurs, on n'a pas d'intégriste contre la dette publique. Mais oui, il dénonce le laxisme des États. Oui, ça c'est sûr, que j'attends qu'on me dise que les États ne sont pas laxistes quand même. De toute façon, vous verrez ça, mais il y a 2-3 pics qui me font rire sur cette partie, et je pense à la partie sur les intérêts. Où il met en clair, il trouve l'intérêt maléfique. Je pense que c'est une vraie question, l'intérêt. Pendant 3000 ans, le pré-intérêt c'était interdit. C'était juste interdit, mais pas interdit un peu, c'était interdit beaucoup. C'était excommunication de prêter intérêt. Il y a, pour ceux qui l'ont lu, là, je me suis amusé à faire ça, pas mal de recherches sur la condamnation de l'intérêt. Alors ça commence à Platon, ça passe à pas mal d'empereurs romains, ça passe par Charlemagne, ça passe par à peu près tous les papes, ça passe par à peu près toutes les autorités morales, les musulmans l'interdisent toujours. C'est une vraie question, ce truc-là. C'est de ça dont on souffre, cette espèce de cupidité de l'épargne aussi. Tout simplement, ce qui est humain est moi le premier. C'est-à-dire, on préfère avoir une épargne qui rapporte 5% que 2%. Bon, c'est humain, hein. Je pense que je connais pas beaucoup qui disent « Non, c'est trop, je préfère moins. » Mais simplement, il faut bien voir que c'est... Oui, de l'épargne solidaire, mais... Bien sûr, c'est une petite partie. Mais enfin, même si les gens avaient vraiment le choix entre une épargne solidaire à 3% et une épargne pas solidaire à 5%, je pense qu'il y a quand même un certain nombre qui prendrait la non solidaire. Mais cet aspect-là entraîne forcément l'économie vers du toujours plus, ce qui est un problème de l'intérêt. Et finalement, tout ce qu'on paye en intérêt, c'est in fine autant de moins pour le travail. Il n'y a pas de miracle. C'est un problème de répartition entre la rente et entre le travail. Et on vit en effet une crise où il y a de perte de plein de choses, hein, perte de morale, perte d'éthique, quand on voit ce qui se passe, perte de prudence, la prudence élémentaire qui n'est plus appliquée, qui s'explique par une vision très court-termiste du financiarisme. C'est sûr que si vous raisonnez à maximum un an, vous faites des choses parfois très très stupides, mais qui vous ramènent beaucoup à 3 mois et qui éventuellement mettent la boîte en faillite, ou vous en faillite, ou le pays en faillite au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Toutes ces choses-là sont dénoncées depuis longtemps. Il y a 2 économistes que j'aime bien, qui sont Jacques Rueff et Maurice Allais. Oh, ils sont très, très, très libéraux. Maurice Allais se définissait comme un libéral socialiste. En tout cas, dans sa vision, je trouve ça intéressant. Et annonçait déjà dès 1998 des problèmes de risque d'écroulement de ces pyramides de crédit. Il appelait ça des pyramides de crédit qui prennent appui les uns sur les autres, les unes sur les autres. C'est exactement ça qui se passe. On voit très bien que vous avez une pyramide de crédit sur les prêts immobiliers, mais qui est tenue par la pyramide des crédits que font les banques, et qui est tenue par la pyramide des crédits que font les États, qui est tenue par la pyramide des crédits des entreprises. Enfin, tout ça est une bulle qui augmente, et où le premier qui lâche va entraîner tous les autres dans des réajustements assez brutaux. Voilà, donc c'est vrai que le premier propos, il est plutôt sur ces dangers-là, parce que quand on entend des idées folles de monétisation qui risquent de foutre l'économie en l'air, c'est vrai que j'axe mon discours plutôt là-dessus, mais c'est vrai que la vision est beaucoup plus forte, parce qu'en effet il y a des pertes de repères, qu'il y a des choses pas simples. Après on peut regarder, on subit aussi peut-être une perte, mon petit avis, regardez, il y a 30-40 ans, je veux dire, on vivait quoi ? Il y avait un affrontement assez fort, si je caricature, entre une visée communiste et une visée que je vais appeler catholique, pour caricaturer. Enfin, c'est finalement 2 modes de pensée, certes antagonistes, mais qui déjà, il y en avait 2, donc les gens pouvaient se positionner, et les 2 tiraient, si vous regardez la société, je trouve dans un sens de... au moins théoriquement, attention, je suis pas en train d'être idéaliste, mais au moins en théorie, dans quelque chose d'assez humaniste. Vous avez les communistes qui allaient vous dire on va faire la grande solidarité universelle parce qu'on est tous égaux, on est tous frères, faisons-le maintenant tout de suite. Et puis vous aviez plutôt les catholiques qui allaient dire oui, mais enfin, soyons humains, machin, en plus on aura le salut après la mort. Enfin, je trouve que c'est quand même deux idées qui, quelque part, tiraient. Il y avait un projet de vie en commun, plus même pour les uns, un projet après la mort, et d'autres, c'était un projet déjà, bon, après la mort, on n'en sait rien, on va déjà commencer avant la mort, ça sera pas mal, qui était plus la partie communiste. En tout cas, il y avait ces espèces de projets-là, antagonistes, qui existaient, qui tiraient la société. Aujourd'hui, c'est quoi le projet? C'est quoi qui tire? Enfin, mis à part la Rolex avant 50 ans, mais plus beaucoup, si vous regardez. Non, franchement, c'est quoi qui... Quel espace de discussion, de vie en commun, de solidarité, de vision collective existe-t-il plus beaucoup? Vous avez un individualisme forcené aujourd'hui qui explique ça. Évidemment, si vous êtes individualiste, bah vous allez finir par ne plus vous reconnaître dans l'État, par plus vouloir payer d'impôts, par plus vouloir... Je fais une insiste sur l'impôt tout à l'heure, je ne suis pas un fanat de l'impôt, hein, je suis comme tout le monde, je trouve que j'en paye trop. Enfin, après, il faut savoir ce qu'on veut aussi au niveau d'un pays. Quand on a ces idées de « il n'y a qu'à monétiser », moi je ne comprends pas, en plus c'est généralement plutôt l'extrême-gauche qui va dire ça. C'est des gens qui arrivent à théoriser que vaut mieux éventuellement faire morfler tout le pays par de l'inflation, qui va toucher qui en premier? C'est le travailleur au SMIC, c'est lui qui va avoir des problèmes. Il y a une Bettencourt, l'inflation même à 5%, elle va survivre la dame. Hein. Ils défendent ça, j'entends jamais dire « on va prendre des impôts ». Je ne veux pas caricaturer le trop, c'est facile, il n'y a qu'à prendre aux riches. Oui, non, il faut prendre à tout le monde. Évidemment, qu'est-ce qu'on vit et pourquoi on est dans cette situation-là? Parce qu'on fait croire aux gens qu'on peut avoir de bonnes retraites, un bon système de santé, une bonne éducation, des iPods, des voyages, de la consommation comme on veut. Bon, au moins pour la moitié de la population qui a quelque chose, je suis obligé d'aller vite aussi. J'oublie vraiment pas la moitié qui est quand même pas dans des situations de vie très simples. On a menti aux gens en disant on peut pas avoir tout ça, c'est pas possible, faut choisir. Par contre, on essaie de les manipuler en disant on a une bonne idée, on va garder l'iPod, on va détruire la retraite. Je trouve que c'est pas très très sain pour l'avenir du pays si on se met à plus avoir de retraite ou de système de protection sociale. Ça peut très bien marcher, mais par contre c'est un arbitrage. Par contre, il faut dire aux gens, choisissez, est-ce que vous voulez des bons systèmes? Est-ce que vous pensez que l'éducation pour l'avenir du pays c'est pas mal? Ou est-ce que vous voulez continuer à consommer à tire-larigot? Pas simple, hein, moi je dis pas, ça se débat. Mais en tout cas il y a un débat. En tout cas c'est sûrement pas, faut détruire la protection sociale pour qu'on continue à acheter des bagnoles. Ouais, ça c'est, je suis désolé, c'est une vue, je comprends qu'on la défende, il y en a d'autres. Et les deux, économiquement, peuvent très bien marcher. Voilà, on est dans ce modèle d'hyperconsommation parce qu'on n'a plus que ça, on n'a plus que ça à vendre. Je vous ai dit, il y a une partie, je vais pas du tout traiter pour le moment, enfin, je l'ai beaucoup travaillé sur le pic pétrolier, on est en plein pic pétrolier. C'est-à-dire que dans pas longtemps, la quantité de pétrole va finir par décroître. Et encore, je parle de la quantité de pétrole produite. C'est-à-dire que bien avant ça, il va y avoir une décroissance forte de la quantité de pétrole exportée. Parce que l'Arabie Saoudite et compagnie, comme ils se développent, le pétrole, ils vont le garder pour eux avant de nous le vendre. C'est un vrai sujet. Donc il va falloir s'adapter à ce truc-là. Donc c'est-à-dire que déjà, pendant pas mal de temps, le pétrole va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. On s'adaptera. Mais ça, on le sait, ce truc-là. C'est prévu depuis très longtemps. Depuis les années 70, en plus. On l'a prévu à peu près à 10 ans près. Quand est-ce qu'il va y avoir le pic pétrolier? C'est à peu près maintenant. On peut discuter encore 2 ans de plus ou 2 ans de moins, mais en gros, c'est à peu près maintenant. Pourquoi? Parce que la quantité de pétrole sur la planète, elle est finie, qu'il y avait 2000 milliards de barils et qu'on en a consommé déjà 1000. Bon, bah, donc il n'y en a plus, c'est pas infini non plus, ça aurait pu l'être. En tout cas, sur une planète finie, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on explique à nos petits-enfants, mais je sais pas, mais des fois j'ai cette image-là, les petits gosses qui n'aura, à cette époque-là, le pétrole, il n'aura pratiquement plus. Il n'aura, ça coûtera la peau des fesses. Donc vraiment, l'économie aura une transition. Quand on va dire, mais dis-moi, à ton époque, il y avait des 4x4 qui roulaient, quoi, des gros machins qui consommaient du 15 litres au 100? Parce que pour vous déplacer, une petite voiture à 5 litres au 100, au moins déjà, sans effort, hein, puisque vous pouviez vous déplacer, vous auriez pu économiser du pétrole pour que peut-être moi j'en ai un peu. On va dire quoi? Non, on gaspillait, parce qu'on trouvait ça vachement bien d'aller faire boum boum dans Paris avec un 4x4. Un 4x4 qui vaut aussi la peau des fesses par rapport, mais c'était bien, ça fait de la croissance. Bon, va falloir le tenir le discours, hein. Ben, bonjour les générations futures, et encore par exemple du petit, mais enfin c'est déjà nous dans 5 ans ou dans 10 ans, je pense qu'on regrettera d'avoir gaspillé autant de pétrole que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais on voit bien qu'on n'est même pas capable de faire ça. Il y a quel est le fou furieux qui va vous dire non, là, vraiment, maintenant les grosses voitures, faut arrêter. Il faut soyons un petit peu prudents, un petit peu économes, pour que sans qu'on fasse des efforts calamiteux, parce que je pense que pas avoir de voitures dans Paris, des 4x4 dans Paris, c'est on peut vivre sans 4x4 dans Paris. Une idée comme ça. Même ça, on n'est pas capable de le faire. Même ça, on n'est pas capable de le faire. Et on voit très bien qu'il va falloir que, effectivement, le pétrole soit 4 euros le litre. Là, ça va être, il y aura beaucoup moins de 4x4 dans Paris à 4 euros le litre. Mais bon, voilà, il y aurait eu un gaspillage faramineux de cette ressource aussi précieuse pour l'économie depuis plusieurs siècles. Ouais, donc c'est une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on est prudent, comment est-ce qu'on gère intelligemment le pays. Et évidemment, ce qu'on ne fait pas sur le pétrole, pensez bien qu'on le fait encore moins sur l'économie, sur des prêts et la consommation et sur ce genre de choses. Donc j'en reviens à mon idée, oui, donc c'est une vraie question sur l'intérêt qu'on donne, c'est une vraie question sur finalement est-ce que c'est si sain que ça de s'enrichir finalement avec rien parce qu'on a de l'argent. C'est pratique, je suis le premier, j'aime bien qu'on épargne, elle me ramène de l'argent, mais est-ce que c'est sain? D'autant qu'en plus, si ça ne le faisait pas, l'argent il serait pas disparu. C'est forcément, il y aura plus d'argent à donner à ceux qui travaillent. Hein, c'est un somme nulle tout ça. Donc voilà, est-ce que c'est sain d'avoir soi-disant une épargne sans risque qui vous rapporte 5%? Enfin, déjà, je me permets de signaler que 5% pour une épargne sans risque, il y a un problème quelque part. Hein. Quand vous avez 5%, c'est qu'il y a un risque. Mais c'est une vraie interrogation, cette existence de l'intérêt du prêt. Parce qu'il y a ce besoin-là, parce que l'épargne, elle s'est collectivisée, qu'on a mis toute notre épargne dans quelques grosses structures qui donc ont d'énormes leviers pour aller négocier avec les entreprises et pour exiger des taux de rentabilité de 15% de l'épargne engagée. Ça oblige à avoir des investisseurs qui font ce genre de pression sur les entreprises, des entreprises qui font n'importe quoi pour essayer de tenir les 15% de rentabilité qui sont demandés et qui mettent l'économie dans la panade. Donc évidemment, je parle des conséquences à court terme, mais donc il y a des problématiques profondes qui sont en effet rarement mises en avant. Enfin, déjà, rien que les problèmes, déjà, on ne les met pas en avant. Alors vous pensez que la raison profonde des problèmes, c'est pas gagné. Donc oui, la crise, elle est... j'aime pas trop faire crise de civilisation, ça fait un peu pompeux. Mais oui, je suis persuadé que de ce genre de choses va sortir des... je l'espère du bon. Et comme je suis optimiste, je préfère l'espérer. Et forcément, des changements. Mais j'en arrive à la conclusion, peut-être un peu, pour le coup, pessimiste, mais on le voit tous les jours, hein, que tant qu'il n'y aura pas des grosses baffes, il n'y aura pas des gros changements. Et on a besoin de gros changements. On a besoin de radicalité dans les mesures. Moi, les mesures que je propose, il y a 60 mesures radicales dedans. Hein, mais c'est du radical de chez radical. Moi, je propose de... Ou de droite, je ne suis pas... Non, mais elle est amusante, c'est une vraie question, on a besoin de radicalité. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que la radicalité aujourd'hui n'est plus que l'apanage des extrêmes, alors qu'il n'y a pas de raison que ce soit l'apanage des extrêmes, la radicalité. Je parlais du taux d'intérêt, malgré tout, même si on a, par rapport au passé, libéralisé l'intérêt. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous touchez de l'épargne, malgré tout, on vous enterre au cimetière. Et c'est plus comme avant, vous n'êtes plus jeté avec les chiens. Bon. Malgré tout, il reste quelque chose de cette période-là. Il y a un taux d'usure qui est dans la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de prêter au-delà d'un certain taux. Je crois qu'il est à 22 ou 23% par an. Donc c'est pour ça que c'est le taux maximum des Cofinoga et compagnie. Là. C'est quasiment le taux d'usure. Donc on a quand même mis une limite dans la loi en disant qu'on n'avait pas le droit de prêter à plus que ça. Bon, moi, une des mesures que je propose, c'est de dire, mais je pense que... Alors elle n'est pas de moi, elle est de Lordon quand même, celle-là. Mais elle est très juste, c'est très fine. Et je pense très, très bien analysée. Il faut mettre un taux usuraire de distribution actionnariale. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'autoriser les entreprises à distribuer du 15% à des actionnaires. Ce n'est pas possible. Il faut considérer que l'actionnaire il prend un risque, c'est normal qu'il soit rémunéré, mais qu'il y a une limite, ça ne peut pas être sans fin. Et qu'aujourd'hui le système il est sans fin, donc comme il est sans fin, on pressure l'entreprise de plus en plus pour sortir de plus en plus d'argent, puisqu'on est dans le système du toujours plus. Et donc cette idée de dire, alors le taux il dépend du secteur d'activité, il y a plein d'outils d'analyse financières qui permettent, en gros, de savoir quelle est la juste rémunération du capital. Ça, à peu près tous les financiers le font, suivant le secteur d'activité de l'entreprise. Parce qu'évidemment, la rémunération, c'est normal qu'elle ne soit pas la même quand vous investissez chez EDF, quand vous investissez dans une banque, ou quand vous investissez dans une petite boîte en création. Normal, vous soyez plus rémunéré, vous avez plus de risques. Il y a des outils d'analyse financière qui permettent de calculer, quelque part, la juste rémunération du capital. Donc on va dire que, voilà, chez Renault, on va dire que c'est 7%, la juste rémunération du capital. Par rapport aux 2% d'inflation, par rapport au risque que vous prenez sur Renault. Il y a des outils d'analyse financière aujourd'hui qui disent « c'est 7% la juste rémunération ». Mais sauf que, après, les financiers disent « bon, c'est bien, ça nous est dû ». C'est-à-dire qu'on est passé dans une optique où maintenant, on considère que le dividende de l'actionnaire, il est dû. C'est plus la résultante, c'est par défaut, il est dû. Et donc, on considère que l'entreprise, elle commence à bien cracher quand elle produit plus que cette somme, qui est la somme juste. consiste à dire bah, vous taxez à 100% au-dessus de la somme juste. Donc les entreprises, elles ont intérêt à continuer à faire du profit et passer 7% de rentabilité, elle arrête. Elle arrête de mettre le système en surpression. C'est discutable. Je veux bien discuter, j'ai aucun souci. Mais il faut juste qu'on en discute, qu'on arrête de dire que tout ça n'est pas possible, parce que c'est sinon le système va finir par imploser par cette pression-là. Et avant, les actionnaires n'avaient pas ces niveaux de rentabilité parce que vous aviez des organisations, vous avez un pouvoir des syndicats, vous avez des gouvernements qui limitaient un certain nombre de choses. Sauf que tout ça n'existe plus avec la mondialisation, avec la mise en concurrence des salariés. Bah, faut bien qu'il y ait une limite. S'il n'y a pas de limite, ça finit très mal parce que la boîte finit par s'autodétruire. Ça, c'est une analyse. Je ne suis pas marxiste, mais une analyse marxiste que je trouve très juste, hein, qui est pour moi le capitalisme sans régulation s'autodétruit. Pour une raison évidente, c'est que vous avez toujours intérêt à faire n'importe quoi à court terme, ça vous rapportera plus que d'être prudent. Et que si je ne mets pas de règles, l'entreprise qui va le faire, elle va être meilleure que l'entreprise qui ne le fait pas, donc au final, elle va gagner les marchés, et l'entreprise qui est prudente va mourir. Enfin, c'est... Pardon, mais je vais y arriver alors.